Sylvain est hypersensible et hyper terrien à la fois. Sylvain est entrepreneur et danseur. Sylvain est amoureux du vivant. À 40 ans, Sylvain a cessé de nier ce qui le grattait, décidé d'oser sa vulnérabilité et de reprendre le bâton de parole pour exprimer ce qu'il ressentait. Sylvain a cette conviction qu'en osant dire ce que l'on ressent, on grandit soi et on fait grandir les autres chemin faisant. Dans cet épisode, Sylvain nous raconte comment il est passé de la souffrance face à ses prises de conscience écologiques à la joie de se reconnecter au vivant en soi. Comment cette reconnexion lui a non seulement permis d'apaiser son éco-anxiété, mais aussi de trouver sa place pour agir de manière alignée. En somme, Sylvain nous raconte comment il a appris à faire rimer son masculin et son féminin et à le mettre au service des mutations auxquelles il aspire vraiment. Cette capacité à faire danser ces deux polarités, c'est ce qui me touche profondément chez un être humain, et en particulier chez Sylvain. Je suis Nathalie Richard, coach professionnelle et co-créatrice de Club Culotté. Notre mission, t'apprendre à aligner ce que tu fais avec ce que tu es. C'est à la fois un enjeu de bien commun et un pouvoir citoyen. Je vous souhaite la bienvenue dans ce 4e épisode de Créez-moi sur parole, le podcast qui dépoussière, démystifie et articule spiritualité et créativité. Alors décrochez vos ceintures, ouvrez grand votre cœur et vos écoutilles et c'est parti. Bon ben bonjour Sylvain.
Bonjour Nathalie.
Je suis heureuse de te retrouver pour ce 4e épisode de Créez-moi sur parole.
Mais écoute, moi je suis heureux que tu m'aies invité.
Alors j'ai une première question pour toi Sylvain, attention parce qu'elle n'est pas simple. Qui es-tu? Que crées-tu? Même si peut-être que tu trouves que c'est un bien grand mot. Et quel lien fais-tu entre qui tu es et ce que tu crées?
Alors qui je suis? Une poussière d'étoiles, un être sensible, je suis vivant, je suis Sylvain, je suis papa, je suis amant, je suis entreprenant, et donc je suis entrepreneur.
Ok. Et... est-ce que tu pourrais nous dire ce que aujourd'hui, en tout cas, tu as l'impression de créer? Quelles sont selon toi tes créations? Et quel lien est-ce que tu pourrais faire entre bah, tout ce que tu viens de dire de toi, qui explique pourquoi je t'ai invité aujourd'hui d'ailleurs, et justement tes créations?
En fait, ce qui me vient spontanément, c'est que je crée jamais tout seul. Que mes créations sont des créations finalement communes, collectives. Dernier exemple en date, création d'entreprise, un projet qui s'appelle Openland, qui est une fabrique de projets évolutionnaires. Je ne l'ai pas créé tout seul, on l'a co-créé à plusieurs. Et finalement, quand j'essaye de faire un petit flashback sur ce que j'ai pu créer dernièrement, je m'aperçois que j'ai certainement des créations personnelles ou qui peuvent émerger comme ça, mais finalement les créations dont je me souviens, c'est celles qui sont collectives.
Et ça dit beaucoup de toi, tu penses?
En grande partie, ouais. Quand même, je pense que ça. En fait, je pense que ça dit. Ça dit que lorsque je crée peut-être tout seul, j'ai peur du regard des autres, j'ai peur d'être à sec en termes d'idées, en termes de concepts, en termes de créativité. Et que je suis beaucoup plus à l'aise finalement pour exprimer ma créativité quand j'ai un interlocuteur ou une interlocutrice. Et encore plus à l'aise lorsque celui-ci ou celle-ci crée avec moi.
Merci pour ça déjà. Est-ce que je vais me permettre de partager un petit peu ce que tu disais juste avant? C'était pas forcément simple pour toi d'être interviewé aujourd'hui. Est-ce que c'est cette aspiration à vivre les choses en collectif qui rend peut-être une interview où on parle de soi, on se met un petit peu à nu, pas simple?
Ouais, c'est pas simple parce que c'est. D'un côté, ça me fait plaisir de me mettre à nu. On pourra en reparler, pas en mode exhibitionniste, hein, mais depuis quelques années, j'assume ma vulnérabilité, le fait de ne pas mettre de barrière à ce que je ressens, et en tout cas de les exprimer. J'ai repris le bâton de parole depuis quelques temps et je le lâche plus. De l'autre, je me demande qui je suis pour prendre la parole, pour être exposé ou m'exposer sur ton podcast, mais je joue le jeu.
Mais tu es là, il y a une bonne raison pour ça. Ok. Comment ce que tu crées finalement, déjà, est-ce que tu peux en dire un peu plus sur Openland quand même pour donner du contexte et aussi en parler aux gens qui ne connaîtraient pas. Je pense que ça peut être pas mal d'en parler, ça en dit long sur ton engagement.
Openland, c'est une, comme je disais tout à l'heure, une fabrique de projets évolutionnaires. Donc on est dans le faire, pour une autre façon d'entreprendre, pas entreprendre pour des revenus, pas entreprendre pour créer quelque chose d'inutile, mais entreprendre pour respecter le vivant, respecter les vivants, et puis peut-être même au-delà ce qui n'est pas vivant. Mais, et donc concrètement, on est là pour parler d'écologie, des enjeux. Maintenant, ça ne sert même presque plus à rien d'en parler, parce que tout le monde les connaît. Ce n'est pas des enjeux qui sont dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 50 ans. On est en plein dedans. Et ces enjeux, ils sont écologiques, autour de la biodiversité, autour des ressources, autour du carbone et de son cycle. Ils sont sociaux, autour des inégalités profondes, diverses. Et puis c'est aussi des enjeux en termes de sens, de sa conscience au monde, pourquoi je suis là, à quoi sert ce que je fais, à ce que j'apporte au monde. Et une fois qu'on a fait le tour de ces enjeux, c'est donner le meilleur de nos interlocuteurs, enfin comment dire, accompagner à ce que chacun et chacune puisse entreprendre ce qui est bon pour elle, ce qui a du sens. Et ça prend des formes diverses et variées dans mon boulot. Qu'est-ce que je peux faire différemment? Comment est-ce que je peux influencer mon organisation? À titre plus personnel, comment est-ce que je peux changer de boulot? Ou même faire en dehors de mon boulot des actions qui ont du sens pour moi. Et ces accompagnements, c'est de libérer finalement ce qu'il y a dans la personne qui est en face de nous. Et dès l'instant que tu te reconnectes à ton sens, à limite ton incarnation, ça vient tout seul. Hein. On n'est pas des magiciens, on n'a pas de poudre magique, on est juste là pour permettre aux uns et aux unes et aux autres d'exprimer...
Ouais. Faire émerger, oui.
C'est ça, faire émerger. Puis après, on a des méthodes, on a des processus qui permettent cette émergence, des méthodes pour structurer un projet, pour structurer que ce projet soit viable aussi, parce que on dissocie souvent écologie, impact social avec la viabilité. Cette viabilité, elle doit être économique.
Nécessaire.
Exactement. Et puis, il faut aussi, surtout, qu'elle soit... intérieur en fait. Si c'est viable pour nous, on trouvera les moyens de le rendre viable vis-à-vis de l'extérieur et viable pour pouvoir payer ses factures à la fin du mois.
Justement, alors comment toi, t'as réussi à faire émerger cette envie? Qu'est-ce qui a fait que t'es passé de ton job d'avant à finalement t'engager aussi pleinement dans Openland et dans ce projet qui te tient à cœur? Je sais qu'il y en a d'autres, mais celui-là en particulier.
Alors une quête de sens qui n'est pas arrivée toute seule, qui était une expérience assez profonde et ma première expérience finalement collective où je me suis mis à nu au sein d'un collectif où j'ai osé dire ce que je pouvais ressentir. C'est une expérience plutôt de développement personnel. J'ai fait un stage il y a 4 ans maintenant avec Stéphane Rio et Vincent Houba qui sont deux personnes qui comptent énormément pour moi. Et le stage, c'était un peu sous couvert. Moi, j'étais en pleine crise de la quarantaine. J'ai 44 aujourd'hui. Donc, je suis plutôt un bon élève de ce côté-là. Voilà, 40 ans, j'ai fait ma crise.
Check the box.
40 ans, 3 enfants, crise. Et j'avais un peu envie de... Je sentais que ça commençait à gratter dans mon boulot. J'étais co-directeur d'une start-up en pleine levée de fonds. Ça devait être la troisième levée de fonds. On était à 10 millions d'euros levés, 50 personnes embauchées.
Ouais.
C'était tout tracé. Ouais. Mais ça grattait. Et puis, je vois passer la proposition de Vincent et de Stéphane. Ça s'appelait « Aux êtres, le changement ».
Tu t'y dis quoi quand t'as vu ça?
Je dis « Ah tiens, pourquoi pas, j'ai envie de changement ». En parallèle, je m'intéressais à tout ce qui était agroécologie, permaculture. Je commençais à être sensible finalement à la notion écologique, parce que j'ai fait une école de commerce et en école de commerce, on m'a jamais appris que pour créer une entreprise, il fallait des ressources, il fallait compter sur ces services écosystémiques. On m'a juste dit, il faut du capital humain et du capital financier.
Le reste,
c'est gratuit et à la limite, on s'en fout.
Un beau signe d'anthropocène.
Oui. Donc voilà, donc chanter quand même, ça, voilà, je grattais de ce côté-là, mais mon éveil, en fait, il s'est d'abord fait à l'intérieur de moi. Donc, oser être le changement, la plaquette, c'était une espèce de bilan de compétences, boîte à outils. Bon, ça a été beaucoup plus profond que ça, puisque la question qu'il y a derrière, c'est quel est le potentiel, quel est mon potentiel? C'est la question qui m'a été posée, mais finalement, c'est la question qui a été posée à tous les participants, les participantes. Quel est votre potentiel en fait? Pourquoi vous êtes incarné?
Ouais, grosse question.
Waouh! Et d'ailleurs, le stage commence par qui es-tu? Et c'est un petit exercice que je vous recommande, dos à dos, avec idéalement un ou une inconnue, et se poser pendant 15 ou 20 minutes cette question récurrente, qui es-tu?
Ça m'en fait des émotions, tu vois.
Ouais, moi aussi. Et voilà, et pendant ce stage, je vous passe les détails, mais c'est une expérience profonde, qui amène du coup un questionnement ou des questionnements profonds sur qui je suis, pourquoi je suis là, pourquoi je me suis incarné, c'est quoi ma mission. Et en sortant de ce stage, j'ai appelé trois personnes, ma femme, ma mère et mon associé. Ma femme pour dire que j'allais bien, que je rentrais, ma mère pour dire que je l'aimais et mon associé pour dire qu'il fallait qu'on parle.
Trois messages différents, mais qui venaient de la même source.
Et après, je me suis abstenu de passer plus de deux coups de fil. Je me suis dit, là, tu risques de... Voilà. Ces trois-là, c'est important, parce que c'est des choses qui vont être mises devant. Donc voilà, ça m'a libéré, en fait, à l'intérieur. Pour la faire courte, pendant ce stage, où tu vas définir, effectivement, ton potentiel. Tu vas comprendre que, finalement, tu es né avec une mission ou en tout cas une sorte de destinée et que ton éducation, tes relations sociales finalement enferment un peu cette mission, enferment ce potentiel, le cabosse, plein de réflexes derrière qui viennent alimenter le fait de l'enfermer, de pas oser dire, pas oser faire de la peine ou inversement vouloir faire plaisir. Et puis bah, du coup t'en oublies ça et puis très vite t'es drivé par le monde extérieur, par tes études. Donc moi, voilà, prépa, école de commerce, j'étais là pour faire du business, quoi. Et donc, pendant ce stage, moi, j'ai redéfini, donc tu fais un certain nombre d'ateliers, de process, et puis tu définis vraiment ce qu'est ton potentiel, puis tu le partages au groupe, et puis petit à petit, on va te poser la question, mais pourquoi, en fait, tu réalises pas ce que t'as dessiné?
À la question.
Et moi, ce que j'ai dessiné de l'herbe, je la fais très courte, très schématique, un soleil orange et un rayonnement de toutes les couleurs de soleil. En fait, ce soleil orange, c'était moi tel un jeune moine et je rayonnais ce que la terre et l'herbe passaient à travers moi et rayonnaient pour les autres. Waouh. Et je suis revenu avec ça. Je suis revenu avec une dose de connexion intérieure très forte. J'en ai fait partager... toute la famille, on a partagé, on a beaucoup écouté de musique et on a beaucoup dansé pendant les quelques jours qu'on suit ce stage. Et c'est ça qui m'a ouvert en fait à l'écologie.
Waouh, ça vraiment. Fait rêver. Ça a duré combien de temps ce stage?
4 jours.
Et il y avait combien de personnes avec toi?
On était 12.
Ok, des hommes, une femme à peu près de ton âge, il y avait tout ou...
Plus jeune, plus âgé.
D'accord. Ouais, une expérience pivot pour toi.
Une expérience pivot. C'était la première fois que je me mettais... j'osais parler à un groupe. Alors c'était très bien facilité. Les conditions étaient créées, le cadre était posé pour que tu puisses exprimer ça. Mais,
et c'était il y a 4 ans.
C'était il y a 4 ans.
Ok. Je suis assez curieuse des déclencheurs. Quand tu disais, tu as fait ce geste aussi que les auditrices et auditeurs ne peuvent voir, un peu au niveau de ton plexus ou au niveau du cœur, ça grattait. Comment ça se manifestait à l'époque pour toi, ce moment où tu dis il y a quelque chose qui doit changer?
T'as du mal à te lever le matin.
Ouais.
Moi, j'avais un poste de manager. J'ai eu le plaisir de recruter toute une équipe de jeunes ingénieurs en informatique, en thermie, en géomatique, des gens beaucoup plus, on va dire, intelligents que moi, brillants. Donc ça, c'était un vrai plaisir. Et pour eux, j'étais en fait un peu l'arbre. Et en fait, l'arbre, il a commencé à vaciller. Pourquoi ? Parce qu'on les avait recrutés sur la mission de l'entreprise dans laquelle j'étais à l'époque, qui avait quand même une première mission sociale, qui était de favoriser une meilleure gestion des bâtiments, de l'énergie dans les bâtiments. Et donc, je les avais recrutés là-dessus. Et puis, chemin faisant, l'entrepreneuriat, c'est aussi de l'opportunisme. Pas au mauvais sens du terme, mais savoir rebondir, c'est une des qualités d'un chef d'entreprise, d'être très résilient, de savoir rebondir. Et finalement, de fil en aiguille, la stratégie de l'entreprise a changé, la définition de ce qu'on était en train de faire avec l'équipe produit notamment a changé, et moi j'étais de moins en moins à l'aise avec ça. Mais je venais d'une éducation où il ne fallait pas le dire, j'étais là pour manager, pour... Mais j'ai senti, en fait, et c'est ça qui a commencé à me gratter, j'ai senti que chez ces jeunes ingénieurs, c'est pas facile à dire, ça commençait un peu à douter, ça commençait à vaciller. J'ai eu quelques levées de boucliers, on me dit, pourquoi on fait ça en fait? Pourquoi est-ce qu'on jette 6 mois de code à la poubelle pour aller dans une direction qui n'est pas celle de la mission de l'entreprise? Et j'avais du mal en fait à l'expliquer. Moi j'étais là pour développer... les activités de l'entreprise, pas forcément la valeur de l'entreprise, les activités, mais voilà, les rebonds faisaient que j'étais de moins en moins à l'aise. Conscience du monde aussi, mes lectures, de plus en plus... pas dire qu'avant, elles n'étaient pas profondes, mais de plus en plus concernées comme lecture.
Concernées, oui, c'est un joli mot.
Voilà. et de fait, pour revenir à ta question, les premiers signes, c'est voilà, t'arrives au boulot, t'es pas bien, en fait.
Oui.
Mais comme on t'a pas appris à écouter ton intuition, ou en tout cas, on me l'a pas appris à moi, je veux pas généraliser.
Moi non plus, sur toi.
on m'a pas appris à sentir ce qu'était en train de me dire mon corps, justement. Quand je dis que ça gratte, mais ça devient des sensations physiques. Hein, à la fin, c'est... Voilà, on le sent, on le ressent, ce mal-être. Voilà, c'était de plus en plus fort, de plus en plus difficile de se lever le matin, de plus en plus difficile de poser sa conscience sur le porte-manteau pour faire comme si de rien n'était et faire le bon manager stable, droit, qui donne les lignes directrices. Et donc, c'était soit j'étais cash avec mes associés, soit je revenais plus travailler. Donc j'ai été cash, j'ai mis 6 mois. Entre le moment où j'ai fait ce stage avec Stéphane et Vincent, j'ai pris conscience et j'ai eu le courage de le dire à mes associés, il s'est passé 6 mois. 6 mois très inconfortables.
6 mois, ok. Donc c'était pas du jour au lendemain en fait.
C'était pas du jour au lendemain. Mais j'en étais incapable en fait, parce que j'étais encore dans mon schéma de te plains pas, t'es pas là pour exprimer ça, t'es en situation professionnelle, il y a une séparation des corps entre... Voilà, ça, fais la part des choses. Il faut bien que tu payes tes traites et que tu puisses payer des belles vacances à tes enfants. Donc, et j'étais sur un super job, super bien payé. Donc, y a tout ça qui vacille, t'as ton cerveau reptilien, moi, il est en haut à droite, sur mon épaule droite, qui à la fin me disait ça, c'est mais qu'est-ce qu'ils vont penser tes parents et qu'est-ce qu'ils vont penser tes amis et ta voiture de fonction, va falloir que tu la rendes, enfin c'était tout ça alors qu'au fond de moi je n'étais déjà plus dans le job et là j'étais en train de me raccrocher à des choses matérielles et ce qui m'a donné le courage.
Ah oui, c'était ma question en fait, qu'est-ce qui a permis la bascule?
Un co-développement. Et ça a été une bascule encore plus que simplement je quitte mon job, puisque je me suis formé derrière au co-développement. J'ai enfin mis des mots sur ce que je faisais spontanément, c'est-à-dire de la facilitation, faire en sorte qu'effectivement un collectif, un groupe d'individus puisse créer des belles choses ensemble, co-créer, co-décider. Et donc c'était un co-développement, pareil, un peu le hasard des choses, avec Thomas Gérard, à qui je fais un bisou, si jamais t'écoutes. je me suis retrouvé avec cette femme que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam un matin de décembre. Alors exprimé, j'ai eu la chance de passer en tant que sujet. Quand on fait un co-développement, il y a une personne dans le groupe qui va porter un sujet et le reste du groupe va l'aider, va contribuer à transcender ce sujet, à trouver des solutions. Parce que c'est
oui,
souvent
c'est
des
bien de parler du principe, tout le monde ne connaît pas.
Le principe du co-développement, voilà, c'est ça. C'est vraiment un très bel exercice d'intelligence collective où je viens avec un sujet, plutôt un sujet qui gratte, une problématique, un caillou dans la chaussure, un truc que j'ai envie de dépasser, mais tout seul, je tourne en rond. Ou quand je demande à mes amis, je tourne en rond. Et donc là, on va se mettre un peu, encore une fois, à nu. En tout cas, c'est tout un process qui, tranquillement, va te faire rentrer dans ton sujet. Tu vas l'exprimer aux autres. Les autres vont d'abord t'écouter, vont te poser des questions. Et puis, à un moment donné, tu dois te taire. Et le groupe va contribuer. Et ça, je trouve ça juste génial. Pas en te faisant des injonctions, en te disant « Nathalie, tu devrais faire ça ». Mais le groupe va contribuer en se mettant dans ta position. Et donc, il y a aussi un effet miroir hyper important pour le groupe. Ça va être « Nathalie, dans ta situation, voilà ce que je ferais. » Et je me suis pris une volée de conseils, d'idées complètement en diagonale avec ce que je pensais, des choses qui ont résonné très très fort. On m'a dit « Mais parle-en à tes enfants, moi j'ai 3 jeunes garçons. » Et notamment une personne qui me dit « Raconte-leur une histoire de Lucky Luke. » C'est ce que je leur racontais depuis qu'ils sont gamins, je leur raconte des histoires de Culuc. Comment est-ce que je peux recevoir de cette personne que je ne connais pas, qui habite Brest, je ne l'ai jamais croisée, un conseil de cette espèce précision, de flèche là envoyée Donc ça, c'était un vendredi, ce co-développement. Le lundi, j'invitais mes associés à déjeuner. On venait de lever 2 millions d'euros, donc ils pensaient que c'était un déjeuner festif. Et dès l'apéro, je leur dis, les mecs, faut que je vous parle. C'est quoi? Je me barre. Mais pourquoi tu te barres? Je suis plus aligné. Ça veut dire quoi?
Je suis plus aligné, ça veut dire quoi? Pardon. On vient de lever 2 millions d'euros.
Bah c'est ça. Voilà. L'un l'a très bien pris, l'autre un petit peu moins bien. Mais
Wow, incroyable l'histoire. Et je tiens à préciser que d'ailleurs, moi j'ai participé à un co-développement avec Sylvain. On sent que c'est une fibre hyper forte en toi et je repense à ce que tu t'es tout au début, le collectif, c'est vraiment magique et très puissant et efficace, super efficace. Ouais, merci pour ça. J'en ai perdu le fil de mes questions, tu vois. Justement, juste avant aussi, on en parlait un petit peu, tu disais que ça t'avait fait cogiter. Quand on parle de créativité, moi j'aime bien pousser ce mot, hein, parce que pas mal de gens se disent que c'est réservé aux artistes. Ben non, on est tous des créateurs, en tout cas moi c'est ma conviction. Et tu viens de le démontrer. La peur, c'est un sujet central quand on parle de créer. J'en sais aussi quelque chose. Avec ce podcast, j'ai dû surmonter beaucoup de peur. Comment toi, comment déjà est-elle présente, si elle l'est, hein, pour toi, Sylvain, et comment toi, tu la gères, mais j'aime pas ce mot. Comment toi, tu l'abordes, la peur?
Bonne question. Moi, je pense que là, spontanément, celle qui vient, et notamment en phase, phase créative, ou en tout cas en phase où tu es exposé, et donc tu crées, en fait, avec le présent. Hein. En fait, effectivement, j'aime bien ton... On ne sont pas créateurs que ceux qui dessinent, qui peignent, qui sculptent. Mais finalement, voilà, au sein d'un groupe, on crée quelque chose.
On crée quelque chose, là.
Voilà, là, on crée quelque chose. Moi, la première peur qui me vient, c'est... Enfin, j'en ai plusieurs. Celle qui vient spontanément, et que je travaille, parce que celle-là, je pense que je la garderai un certain temps, c'est la peur de ne pas faire plaisir. Donc finalement, c'est un peu la peur de la réaction de l'autre. C'est la peur de ce que je vais lui dire va pas lui plaire, ce que je vais lui dire va être à côté de la plaque. Alors celle-là, moi, c'est une peur qui est régulière, et pour y lutter, en fait, je me jette à l'eau. En fait, c'est une espèce de... Parce que sinon, ça me crée soit des insomnies la veille, soit une surpréparation, et finalement être à côté de ce que tu as envie de créer. Et donc, de plus en plus, je me mets en fait en risque spontanément. Quoi. La deuxième peur que j'ai, c'est de ne pas dire ce que je ressens à l'instant T. J'ai eu cette peur, surtout en milieu professionnel, elle était hyper présente. Tu sais, c'est le petit truc, tu sors de réunion, tu dis putain, j'aurais dû dire ça, quoi.
Ah ouais, je crois que je vois. Je crois qu'on est nombreux à voir.
Ah ouais, j'aurais vraiment dû le dire parce que là, maintenant, je sais pas comment je vais le dire. Deux, je repars avec ça et ça reste avec moi. Donc, celle-là, maintenant, je l'ai dépassée également en mode tant pis, j'exprime.
Et en fait, ça. Elle rejoint pas la première d'ailleurs, un peu ? Ou c'est différent ? En quoi c'est différent ?
Ah. Si, elle rejoint la première, parce que finalement, en ayant peur d'exprimer ce que tu ressens, tu as peur de la réaction de l'autre, tu as peur de le blesser. Celle-là, elle est un peu différente. Mmh. Quand je parlais vraiment de vouloir faire plaisir, ouais, si, c'est en fait, non, t'as raison. C'est comme très très proche, quoi. Celle-là, de fait. Pareil, boulot sur soi, notamment un boulot d'hypnose hyper intéressant avec Élodie.
Mmh. Élodie par Henriquet,
voilà.
Je précise.
Avec qui je co-crée aussi. On a co-créé une formation autour de la facilitation écologique ensemble. Et c'est notamment avec... Élodie fait des méditations guidées qui s'apparentent à de l'hypnose. Et si elle m'écoutait, s'apparente à de l'hypnose, ça ne doit rien vouloir dire, mais... Elodie, si tu nous écoutes...
C'est de l'hypnose, on peut dire,
c'est de l'hypnose,
on peut dire ça, c'est vrai que je nous écoute.
Et Elodie, notamment, elle guide une très belle hypnose qui nous emmène voir celui que nous sommes en plus vieux. Et c'est grâce à une de ces hypnoses que j'ai ancré le fait que mon moi plus vieux me redonne ce bâton de parole. En me disant, Sylvain, dans le reste temps de ta vie... S'il te plaît, dis ce que tu ressens, parce que tu grandis et tu fais grandir l'autre en disant ça. Et grâce à cette méditation, j'ai vraiment ancré, et j'en ai un geste maintenant, quand je sens que j'ai besoin de me raccrocher, parce que faut du courage hein, pour dire ce qu'on a vraiment sur le cœur, parce qu'on se met effectivement, on est vulnérable. Mais je trouve que c'est là où on brille le plus.
Ouais, on s'autorise à être soi et être
vivant. On s'autorise à être soi. Et donc, j'ancre à cette prise de parole. Et si je reviens tout petit peu en avant, sur, c'est ce que je suis allé rechercher aussi en faisant de la danse. Puisque j'ai la chance de faire cette activité, la chance, le plaisir. Enfin, je me suis créé la chance et l'opportunité, mais de faire de la danse... notamment d'un mouvement qui s'appelle Movement Medicine, donc traduit en français le mouvement médecine ou la danse médecine, où il y avait notamment aussi un exercice où on allait se reconnecter un peu à ce qu'on nous avait par le passé confisqué, et on allait se reconnecter sur est-ce qu'on peut ou pas récupérer ce qu'on nous a confisqué, et moi c'était vraiment la parole. Alors tout ça est très lié à ma vie perso, hein, à mon histoire.
On est là pour ça, Sylvain.
Ok.
Lâche-toi, fais-toi
tout ça plaisir. Pour dire que voilà, ce bâton de parole, maintenant, j'y tiens.
Oui.
Est-ce que ça me renvoie ? Ça fait pas très longtemps, hein. Ça fait quelques années, voire quelques douzaines de mois, mais... En fait, aujourd'hui, on me remercie pour ça. Même en réunion de travail, autour d'une table de travail, d'avoir osé exprimer un sentiment, d'avoir osé exprimer une émotion.
Oui.
Parce que soit elle est partagée.
Oui.
Et quelqu'un autour de la table met des mots.
Ça fait écho.
Soit parce que ça fait avancer. Tiens, s'il ressent ça et qu'il nous explique pourquoi il ressent. L'idée, c'est pas de balancer simplement notre émotion comme ça au travers. C'est d'être plutôt en connexion avec la personne et de lui exprimer ce qui est bon, hein, avec une. Sa juste responsabilité. Voilà, je peux me permettre de partager ça parce que c'est fort pour moi, c'est important pour moi et c'est important pour le contexte dans lequel on est. Il y a des émotions, bah, tiens, tu les gardes, hein, tu les mets dans la petite boîte à émotions pour plus tard et puis tu les oublies soit le soir, soit tu les ressors le moment voulu. Mais... Donc voilà, donc cette peur de pas dire ce que je ressens, voilà, je ne veux plus la vivre, donc maintenant je le dis.
C'est intéressant ce que tu dis parce que moi j'aime bien dire que Et je vois la peur de manière autre depuis quelques semaines ou peut-être quelques mois. Quelqu'un m'a dit une fois, suis la peur, c'est elle qui t'indique le flot de la vie. Quelque chose comme ça. Et en fait, quand je t'entends, tu vas me dire si c'est correct, hein, ce que je connais de toi aussi, c'est à quel point ce partage de la parole et cette écoute, c'est central, finalement, dans ce que moi, tu m'as apporté. Il y a une qualité exceptionnelle, je trouve, quand tu es là pour organiser cette parole, entre guillemets, par exemple dans des codev. Et ce que tu exprimes là, c'est que tu avais cette peur toi-même, avant de la dire, cette parole. Donc ça me fait me dire, ah tiens, un bon exemple de « suis la peur », elle t'indique où tu dois aller. Ça résonne pour toi,
ah, complètement. Là. Pour moi, la peur, en fait, c'est un guide pour notre réalisation. Mm-hmm. T'as la peur qui t'empêche de te blesser physiquement.
Oui,
et
celle-là, faut la garder.
Et celle-là, faut la garder aussi.
Pour survivre.
Après, t'as la peur qui va te faire de plus rien faire. Mais quand tu saisis, en fait... c'est des peurs intérieures, des peurs de blessures psychologiques, elles te permettent, pour moi, si tu les affrontes, et plus tu les affrontes, plus tu gagnes en confiance, justement d'alimenter ta réalisation, ta propre réalisation, même celle d'un groupe, en fait. Commencer par exprimer ses peurs ou exprimer quelque chose qui ne va pas, permet derrière, si on exprime aussi des choses qui vont bien ou des choses qui font rêver, de... Ouais. Parce qu'au moins, elles sont dites, quoi, elles sont posées.
Les nommer, c'est un super conseil, en tout cas. Nommer ses peurs, ça permet déjà de soulager pour commencer
juste
à les
nommer,
en fait.
Et pas forcément les décortiquer. Moi, c'est ouais. Voilà, elles sont posées, elles sont là. Ah, déjà, on peut les regarder. Mm-mm. Puis elles sont là, et c'est ok.
Super. En fait. J'ai envie quand même de te demander aujourd'hui, t'as peur de quoi, Sylvain? La question inconfortable.
Non, c'est très inconfortable. Oui, j'ai peur de mourir. Alors, si t'étais psy, tu devrais me répondre...
Je suis pas psy.
Vous savez, Sylvain, la peur de mourir, c'est la peur de rater sa vie. Peut-être.
Peut-être.
Ouais, aujourd'hui, je suis de mourir, je suis d'être malade. Alors, un truc incurable. Enfin, je te le dis comme ça vient.
C'est comme ça vient. Ok. Merci pour ce partage sur les peurs. Autre sujet, tu le sais... ce podcast s'appelle Crée-moi sur parole et son objectif, c'est de tenter d'articuler, de démystifier, de dépoussiérer les sujets de spiritualité et de créativité et de faire le lien entre les deux. Alors du coup, le gros mot de la spiritualité, je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps on en a parlé, parce que j'avais osé le dire dans l'environnement de la French Tech nantaise et que ça avait été un sujet pour moi. Qu'est-ce que ce mot signifie pour toi ? Spiritualité, et comment tu la vis, si tant est que ce soit le cas aujourd'hui, Sylvain?
Alors, qu'est-ce que c'est pour moi? Pour moi, c'est de l'ordre du sensible, la spiritualité. C'est de l'ordre de l'intérieur et de l'extérieur. C'est de l'ordre de la connexion. C'est des gros mots que je viens de dire, mais le sensible, c'est... Je vais reprendre. C'est ma manière, finalement, et peut-être que j'appelle ça à tort spiritualité ou pas, mais de vivre... Ma spiritualité, c'est de vivre des connexions vivantes, sensibles, avec moi et avec les autres. Quand je dis avec moi, c'est... être capable, justement, parce que je t'ai dit tout à l'heure, d'écouter ses émotions, d'écouter sa sensibilité, de ne pas en avoir peur, de ne pas se mentir. Pour moi, c'est des moments que j'appelle spirituels. En fait, quand tu te regardes vraiment en face, que ce soit beau, que ce soit pas beau, c'est là, c'est sensible, c'est vivant, c'est de la matière qui n'est pas matière, justement. Et la même chose vis-à-vis de l'extérieur. Moi, je suis d'une éducation chrétienne, catholique. À mon adolescence, j'ai claqué la porte de l'église. Jeune adulte, jusqu'à mes 40 ans.
Nada.
Nada. En tout cas, sensibilité sur off. Et la danse m'a reconnecté à cet élément sensible en moi, donc peut-être spirituel. Et notamment, c'était de la danse qu'avec des hommes. Et pour la petite histoire, j'avais été pas forcé, mais en tout cas un peu piégé à m'inscrire à ce cycle de danse. Enfin, piégé, en tout cas, ça va te faire du bien, vas-y, tu vas voir, c'est chouette. Et là, tu te pointes avec tous tes présupposés, tes schémas, que des mecs. Plus ou moins en jogging.
T'étais pas en jogging, toi ?
Si, si, bah, fallait être à l'aise, fallait être à l'aise pour danser. Donc, mais bon, quand même. Des grands, des beaux, des moches, des maigres, des gros.
L'humanité devant toi.
Ouais. Première réaction. C'est quoi ce truc ? Qu'est-ce que je fais là ? Mais c'est pas hors de question que je danse avec eux. Bon, 3 jours après, c'est les plus belles personnes que j'ai jamais rencontrées. Passer une demi-heure les yeux dans les yeux avec un autre homme que tu ne connais ni Ève ni Adam, t'en oublies, voilà, toutes ces représentations matérielles qui t'a envoyé la première fois que tu l'as vu, et tu te connectes à quelque chose de que moi j'appelle spirituel, en fait, qui est un autre niveau de connexion, de partage avec cet autre être humain. Et de fait, une fois que tu réouvres ça sur l'humain, c'est puissance 10 sur la nature qui t'entoure. Faire un câlin à un arbre, se connecter à une coccinelle, c'est pour moi de l'ordre du spirituel, en fait, de se reconnecter à une sensibilité qui te fait quelque chose à l'intérieur, qui te connecte avec cet extérieur. Et ouais, c'est très horizontal et vertical, en fait.
Ça t'apporte quoi de te reconnecter à ce vivant, en fait ?
À me sentir vivant.
Ouais, c'est ce que je pensais en le disant, mais c'est cool de le dire.
Non, mais clairement, en fait, c'est de ressentir que j'ai un cœur qui bat, que j'ai des émotions, que je peux me blesser, que je peux saigner, mais toi aussi, et l'autre aussi. Mmh. Et en fait, ça m'a complètement... une espèce de prise de conscience, ça m'a finalement assez apaisé. Parce que sinon, t'as vite fait de sombrer dans « c'est la fin du monde, on est dans la merde, on a tout détruit, notre système est mortifère », et de balancer ça à tes enfants alors qu'ils ont même pas 10 ans et qu'ils y sont pour rien. Et finalement, là, me reconnecter à voilà, moi, ce que je définis comme de la spiritualité pour moi, encore une fois, et ben, ça apaise. Ça apaise de voir du beau, en fait, même sur des choses qui peuvent te paraître moches. Alors, je te parle pas de système productif ou autre, mais chez les autres, enfin, chez l'autre être humain, en fait, que t'aurais tendance à mettre dans le même sac. Ouais. Pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça, pourquoi il consomme, il a pas compris, il est con, on va droit dans le mur.
Quelque part, t'es en train de dire que ça t'évite de projeter aussi, ou de juger, ça...
En fait, ça nourrit ma compassion.
Ça nourrit ta compassion, ouais. Okay.
Au début, je pense que c'était de la pitié. Tu vois ? Non, mais...
Oui, ce qui est très différent.
C'est ça, mais que finalement, à atteindre, et c'est, je pense que pareil, c'est tout un chemin. Mais le tout petit niveau là, que moi, je nourris de compassion envers l'autre, même le pire... Ça apaise, en fait, parce qu'il y a toujours une part de beau.
Ouais, c'est comme ça que tu le définis, parce que même moi, je me suis... Avec un ami, on s'interroge pas mal. Je lui fais une petite dédicace, il se reconnaîtra. On s'interroge sur la compassion. Alors moi, je suis très étymologie, donc je pense à souffrir avec. Mais ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est de reconnaître ce qu'il y a de beau en tout un chacun, quoi. Même le pire de nos ennemis.
Ouais. Alors ça, c'est peut-être très chrétien, enfin, ça remonte peut-être à mon éducation chrétienne, tu vois, moi en tout cas, c'est un truc qui me travaille beaucoup, en fait, c'est est-ce que t'es capable de pardonner, même au pire des salauds, et je citerai pas de saloperie. Je crois que oui.
Et est-ce que tu crois que... Vas-y, tu voulais ajouter quelque chose.
Non, si tu reviens sur l'étymologie, moi, c'était beaucoup ça il y a 4 ans, là, pendant ma mue. Et notamment quand j'ai pris à bras le corps le sujet écologique, j'étais dans une mauvaise compassion, en tout cas celle qui est étymologique, c'est que j'étais là pour souffrir avec.
Ouais.
Mais c'est autodestructeur en fait.
C'est hyper bien de le dire.
C'est sacerdoce, c'est.
Ça sert personne finalement.
Ça sert personne, tu souffres, tu fais souffrir tes proches, ça sauvera pas le monde, je pense. Ça peut même, peut-être même plus le précipiter parce que tu génères finalement un espèce de sentiment de. Enfin, tu vois, c'est
ouais, tu précipites l'effondrement, y compris personnel.
Exactement, quoi. Et ça m'a fait réagir. Quand je commençais moi-même à avoir ce même dans mon... Je suis au service du vivant. Tu vois, c'est ce que je disais beaucoup au démarrage d'Openland. Ok. Le premier être vivant avec qui je suis en contact, c'est moi.
C'est toi.
Donc j'ai déjà... Voilà. Prendre soin de moi. Si je veux prendre soin des autres ou voilà, du macrocosme. Et voilà, donc je suis. Donc, moi, quand je te dis compassion, voilà, c'est pas celle de souffrir avec, ou tu peux, hein, c'est peut-être ça qui va être le déclencheur de
mais
ta.
Mais c'est pas ça pour toi. Ouais.
De ce qui va te permettre de voir le beau, mais pas trop longtemps, ou en tout cas avec une bonne protection.
Ouais, finalement, la première écologie, c'est celle que l'on mène à l'intérieur de soi. C'est... Ouais. Alors, du coup, ça mène à un peu au futur, justement. Quelle est, selon toi, la place de, allez, on va dire, d'abord la spiritualité et ensuite la créativité dans le fameux monde dit d'après, mais comme tu le disais très justement, celui qu'on construit maintenant, en fait.
Je ne sais pas si le mot spiritualité est le bon, parce qu'il peut encore, je pense, faire peur. Encore une fois, moi, c'est pour ça que je me capte à la sensibilité. Mais donc oui. C'est,
alors, prenons sensibilité.
Et moi, je le vois, là, c'est un témoignage de papa que je vous donne, là, c'est, que je te donne, que je te partage. C'est... C'est pour nos enfants, enfin pour mes enfants, c'est de leur faire travailler tout leur sens, quoi. Enfin, le... Elle n'est pas facile, ta question.
Non.
Pour moi, il en faut, en fait. Cette spiritualité, c'est celle qui va nous permettre de nous détacher du matériel, de nous détacher de la surconsommation, de nous détacher du fait qu'on pense être heureux en consommant, celle qui va nous détacher de l'attachement avec ces choses matérielles, qui va nous permettre d'avoir des vies plus simples, mais plus connectées. Pas au sens 5e génération, là, ou enfin 5G, mais connectées au sens connectées avec le reste du vivant, voire du non-vivant. Et donc, oui, ça, pour moi, ça devrait être central, en fait, cette sensibilité, cette conscience. On fait un exercice de temps en temps avec les gamins, ça peut paraître cliché, mais de manger en conscience, de remercier toute la chaîne qui a fait que, et donc pas forcément que la chaîne logistique, mais je veux dire toutes les personnes ou tous les végétaux qui ont permis d'avoir le bon miam dans notre assiette. Ben ça, voilà, c'est renforcer sa sensibilité à ça, sa prise de conscience, c'est-à-dire oui, mais je suis pas juste là en train de manger. Parce que j'ai à manger dans mon assiette, il y a tout un travail qui a été fait pour que je puisse profiter pleinement de mon repas. Et voilà, c'est peut-être à tort, mais voilà, pour moi, ça fait partie de cette spiritualité dont tu parles, ou sensibilité qu'on doit retrouver, on doit se reconnecter à ça.
Tu crois qu'on a oublié notre interdépendance, en fait, qu'on a complètement perdu le sens de cette interconnexion.
Ouais, et la sensibilité qui va avec.
Ouais.
Qu'un animal peut souffrir, un arbre peut souffrir, au même titre que moi je peux souffrir soit en me coupant, soit d'un chagrin d'amour, quoi, ou d'une déception. On est sensible.
Et alors, il y a un truc que je trouve intéressant, c'est que là on en parle, donc c'est pas mal le mental, même si, alors je vous dis, quand Sylvain, moi ça m'impressionne quand il parle, il a cette, avant de répondre, justement ce réflexe de fermer les yeux et de laisser venir, j'ai l'impression. Une réponse qui vient un peu d'ailleurs que peut-être quelque chose de pré-préparé du mental. Du coup, ma question, c'est, tu vois, moi, je le sais que je dois retrouver cette interconnexion. Parfois, je le sens. Mais comment on fait pour... comment toi, tu fais plutôt pour le nourrir, pour l'alimenter, pour... c'est ça, c'est des pratiques tous les jours. Par exemple, ce que tu disais avec tes enfants, quand tu manges, c'est quoi? C'est quand tu marches dans la rue, tu sors de ton mental. Tu fais comment, toi, Sylvain, pour nourrir ça? Parce que je pense qu'il y a quelque chose de très concret. C'est pas juste une interview, une belle pensée ou une belle théorie. Il y a quelque chose de... une pratique à peut-être remettre en route. Enfin, je cherche en tout cas, donc je te pose la question.
Ouais, écoute, je sais pas si j'ai une réponse.
Bah, tentons, on cherche, on est
tentons,
chercheurs.
Tentons, cherchons. Il faut créer des réflexes de ça. C'est pas juste, tiens, je suis allé danser le week-end dernier avec des inconnus, c'était génial, j'étais connecté.
Et le lundi, t'oublies.
Et puis le lundi, t'oublies. Il y a plein de pratiques, effectivement, intérieures ou extérieures. La danse, la méditation, qui est quand même de plus en plus abordée. Petit clin d'œil, nous, on se fait de courtes méditations avant tout démarrage de réunion.
Ouais.
On se met dans une qualité différente que si on arrivait à avoir absolument vouloir placer ce qu'on a à placer. Puis avant, on n'a pas écouté, et puis après, on n'écoute plus. Donc ça, en fait, c'est créer plein de petits moments où on va expérimenter. C'est OK si ça ne marche pas, c'est OK si je décroche. Nous, avec les gamins, ça, c'est très concret. Mais je ne pense pas être le seul à le faire. Mais c'est les trois choses cool de la journée, au moment du repas.
Ah oui, je fais ça moi aussi, c'est génial.
Et les gamins, spontanément, c'est ah, quand j'ai joué avec machin, et puis bah, nous, on va juste les chercher un peu. Mais en fait, quand t'as joué avec machin, c'était quoi vraiment que t'as kiffé là? C'était quoi? C'était une sensation? C'était une couleur? C'était. Je vais donner un autre exemple sur. On a parlé de co-développement tout à l'heure. Le co-développement, tu peux vraiment être beaucoup dans le mental.
Oui.
Ceux qui l'ont théorisé, messieurs Champagne et Paillette, c'est vraiment un processus dans le monde professionnel. Et donc, quand, par exemple, tu proposes un sujet, bah, je vais voter sur ton sujet. Je vais dire, bah, voilà, moi, je trouve que oui, ton sujet, il est intéressant pour X ou Y raison. Moi, par exemple, ce que je vais proposer, c'est que quand tu abordes ton sujet, que tout le monde puisse te renvoyer un ressenti, une couleur, une image qui est venue. Et c'est au fait autant d'informations qui vont te connecter à cette interconnexion, qui vont te connecter au fait que, ah oui, t'es un être sensible qui peut avoir autre chose que des neurones qui vont apporter une réponse soit toute faite, soit très plaquée. Et c'est, voilà, c'est capter ces informations. Après, je suis Sylvain, tu vois. Je suis... c'est comme ça que je...
C'est ce que toi t'apportes, en tout cas.
C'est, voilà, c'est ce que j'apporte. C'est ma... Même, je sais pas, c'est ma... C'est comme ça que j'ai été mis au monde, quoi. Moi, je suis.
Ouais, c'est un peu ton câblage, quoi.
Je suis hyper sensible et en même temps hyper terrien. Et c'est parfois très compliqué de faire parler les deux, quoi.
Bah, tu voulais une réponse sur pourquoi toi aujourd'hui, peut-être. En tout cas, au début, c'est un peu ce que tu m'as dit et en dehors aussi. Et bien, je crois que c'est cette alchimie de ce que moi j'appelle de féminin et de masculin. Donc cette énergie d'accueil. Et de sensible, et cette énergie de faire, et je vais dans le monde, et je fais des choses concrètes, et j'ai un impact. Et merci de nous montrer que c'est possible, et des voies, des exemples pour y aller. Je pense que c'est aussi une des raisons d'être de ce podcast.
Merci Nathalie.
Alors, une avant-dernière question, avant les petites questions que j'appelle rafale de la fin où ça va plus vite, vouf, comme une fusée. J'ai trouvé ça rigolo. Tout à l'heure, tu te baladais un peu sur la ligne du temps en parlant de cette hypnose où tu pars, tu retrouves le Sylvain plus âgé. Alors justement, c'est drôle parce que j'ai des questions là-dessus. en mode court, qu'est-ce que le Sylvain d'aujourd'hui aurait envie de dire au Sylvain d'il y a 10 ans?
Alors, Sylvain d'il y a 10 ans... Fleur de l'âge, 34 ans. attends, je regarde si j'avais déjà mes trois garçons.
Regarde.
Avec Nat. Donc il y a 10 ans, c'était 2010.
C'est ça.
J'étais encore très attaché à l'argent, au statut social. Donc le Sylvain d'aujourd'hui dirait à celui de 2010 « Détache-toi de ça, mec. » Ouais, il lui dirait de se détacher de ça. Je me souviens qu'à l'époque, j'étais déjà en train d'entreprendre et j'étais flippé de pas pouvoir nourrir mes enfants. Et finalement, je pense que je ne libérais pas ce que j'aurais pu libérer. Mmh. Et pourtant, il faut avoir faim hein, quand on entreprend pour oser plein de choses. Mais je pense que j'ai encore cette énergie très présente. Voilà ce que je lui dirais.
On va se déplacer sur la ligne du temps. Moi, je pense qu'ils coexistent tous en même temps. Hein. Mais bon, faut pas le dire trop fort. Qu'est-ce que le Sylvain de dans 10 ans te dirait à toi aujourd'hui ?
Ah, qu'est-ce que le Sylvain de dans 10 ans me dirait à toi, à moi aujourd'hui ?
Ouais.
Alors, on est en 2030.
Ouais, on est en 2030.
Et confiance.
Merci à tous et Sylvain.
Merci les mecs.
Merci les mecs. Allez, on va passer en petite question rafale. Réponse super courte. Qu'est-ce qui te donne de l'espoir, Sylvain ?
Mes enfants.
C'est qui ton super-héros ou ta super-héroïne préférée ?
Waouh ! J'en ai plein. John DeFool.
C'est qui John DeFool, hein ? Moi, je ne sais pas qui c'est.
John DeFool, c'est un détective de classe Z qui est le héros, malgré lui, de la bande dessinée de Jean Giraud alias Moebius et Jodorowsky qui s'appelle L'Incal.
Ok, et qu'est-ce qui fait que c'est un de tes préférés ?
Parce que c'est un mec complètement ordinaire, drogué et qui pourtant... Enfin, drogué, c'est une BD de science-fiction, donc c'est... C'est un junkie qui va mettre au monde Solune, qui va être l'androgyne parfait qui sauvera le monde de la menace noire. Et donc, c'est l'anti-héros, en fait. C'est le mec qui n'a pas le courage de faire ce qu'il fait, mais qui se retrouve avec une mission qui le dépasse et qui lui font dépasser tous ces trucs. Donc,
c'est voilà. Un peu toi, en fait, l'anti-héros, non ?
C'est peut-être pour ça que j'aime bien.
On s'arrête là.
Ouais.
Une autre figure qui t'inspire ?
Il y en a pas mal.
Réel ou imaginaire que tu as envie de nommer là.
Celui qui vient spontanément là quand tu me poses la question, c'est Satish Kumar.
Je pensais à lui aussi. N'hésitez pas à aller voir ce que cet incroyable monsieur fait. Et le Schumacher College. Qu'est-ce que tu aimerais ? Attention, question qui peut sembler égoïste, mais que ne l'est pas. Qu'est-ce que tu aimerais que l'on dise de tes accomplissements quand tu ne seras plus là ?
Ah ouais, j'adore cette question. C'est un peu la question de l'épitaphe sur ta tombe.
C'est exactement ça.
Eh ben écoute, j'ai déjà fait l'exercice et je redis finalement à chaque fois la même chose. Il est remonté dans l'arbre.
Il est remonté dans l'arbre ?
Ouais.
Waouh. Ok.
Ouais, quand j'ai fait cet exercice de visualisation où t'as ta famille, tout le monde est en train de pleurer autour de ta tombe, je pense que ce qu'ils auraient mis comme épitaphe ou ce qu'ils diraient, c'est « Putain, il l'a fait, en fait. Il est remonté dans l'arbre.
Ah, » Voilà. J'ai des frissons, truc de ouf. Sylvain, qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer ?
C'est une autre peur que j'avais pas dit, c'est que...
Ne pas savoir répondre aux questions.
C'est ça.
Rafale.
Ne pas savoir répondre aux questions.
T'as un joker, tu peux passer. Mais ça va quand même.
Non, mais qu'est-ce qui me fait vibrer ? Je vais paraître... paraître chamallow. J'avais encore envie de dire mes enfants. La musique quand même. Bon, ça c'est justement des vibrations. Et en ce moment, ce qui me fait vibrer, c'est d'avoir repris... le piano, l'orgue avec mon fiston, et en fait c'est de jouer de la musique plus que d'en écouter parce que là c'est...
Qu'est-ce qui te met en colère ? Vraiment en colère ?
Le harcèlement.
Qu'est-ce qui te met profondément en joie, à part de jouer de la musique et de monter dans les arbres.
Le cycle de la nature.
Qui ou qu'est-ce qui te fait mourir de rire ? Ma question, visiblement.
Oui, pas voilà ta question.
C'est très important d'avoir un fou rire par jour.
Ouais. J'essaye de me connecter à mon dernier fou rire. Non, vas-y, bah, ta question. Et...
ok, ma question.
Et l'autodérision.
Ça s'appelle « Créez-moi sur parole ». La parole est créatrice. Qu'est-ce que tu as envie de clamer vraiment haut et fort, là, maintenant, tout de suite ?
Excuse-moi, mais du coup, le taux d'érision, tu vois, je me fais rire. Ce que j'avais envie de clamer, ce qui est sorti là spontanément, aimez-vous les uns les autres. Mais alors, je me dis, c'est tellement.
Bah vas-y, aimez-vous les uns les autres.
C'est tellement cliché. Enfin, je vais sortir ma soutane et.
C'est cliché, mais est-ce que ce serait pas nos peurs en nous-mêmes, enfin, notre difficulté à lâcher prise là-dessus qui fait qu'on rigole alors que c'est. Il y a juste ça à faire.
Ben oui, non, mais voilà, en fait, je suis en même temps très sérieux, quoi. C'est ce que j'ai envie de crier, quoi. Juste stop, quoi.
Pour finir, juste parce que c'est cool de partager ces ressources, est-ce qu'il y a trois ressources ? Des livres, des vidéos, des lieux. Tu as déjà parlé du stage, effectivement, qui t'avait, ouais, toi, vachement aidé, qui t'ont vraiment soutenu, aidé à te déployer, même des musiques, enfin, des trucs qui te viennent.
Non, moi, c'est beaucoup de personnes dans
Donc Satish Kumar, tu veux peut-être dire qui il est ?
Satish Kumar, c'est un sacré bonhomme indien d'origine qui a beaucoup marché dans les années 70 contre le nucléaire. Et en fait, pourquoi il m'inspire, Satish ? Il a fait beaucoup de beaux livres. Il parle de la Nouvelle Trinité et ainsi de suite. En fait, ce qui m'inspire le plus chez lui, c'est... et c'est lui qui me baigne de... comment dire, zénitude, c'est pas le bon terme, mais de sérénité. C'est, me dit, n'attends pas de résultat, en fait. Incarne ce que tu penses être bon d'incarner, continue d'avancer. Et ça, c'est, je pense, ces cinq dernières années, le meilleur conseil qu'on ait pu me donner, justement, quand on se met... à se pluguer sur des causes écologiques, sur la misère du monde. On a envie, en tout cas dans notre culture, dans ma culture, d'avoir des résultats, de changer un maximum de monde. C'est les petits pas, les grands pas. Et cette parole sage de dire juste continue, en fait. Elle est là, ta mission, en fait, c'est de continuer d'incarner et n'attends pas de résultats, sinon tu vas souffrir. Donc voilà, Satish, en tout cas pour ça, ce clin d'œil. Il y a son bud aussi, son beau, utile et durable, que toute chose, tout acte doit être fait selon cette philosophie. Ça doit d'abord être beau, parce que ça doit être désirable. Ça doit être utile, mais ça doit être durable. Donc ça me parle bien. Je t'ai parlé de Vincent Houba,
ouais, tu peux et de Stéphane Rio. Tu peux en dire un mot aussi de ces deux hommes.
Un mot, beau. C'est des belles personnes. Et voilà, qui savent créer des expériences profondes pour ceux qu'ils accompagnent.
Oui, je vous invite à aller regarder leur site, tout simplement, vous les trouverez facilement.
Un peu plus proche, si vous êtes nantais, Thomas Emmanuel Gérard est aussi une très belle personne qui a beaucoup compté pour moi. En fait, il y a beaucoup d'hommes qui ont compté pour moi.
Oui.
Parce que j'ai perdu mon papa très très jeune. Et en fait, j'ai toujours été, jusqu'à un certain temps, chercher des... papa dans ma relation avec les hommes, jusqu'à ce que je trouve des frères, en fait. Et voilà, et Thomas m'a poussé dans mes retranchements, m'a amené à danser, exprimer un certain nombre de choses. Donc,
ah, c'est lui le traquenard.
C'est lui le traquenard. C'est lui le traquenard. Voilà, donc, spontanément, les gens qui assez récemment comptent pour moi.
Ok, merci pour ça. Et la dernière question, c'est, est-ce qu'il y a une question que tu rêverais que je te pose ? C'est la pire des questions.
C'est la pire des questions. Ben non, je sais pas si j'ai des vis, si j'ai...
Si t'as des vis, des boulons,
des vis, des boulons. Non, c'est bien.
C'est bien.
Et ben, toi, il y a une question que tu rêves
Bah, non, je l'aurais t'aurais déjà posée, je pense. Attends. Je réfléchis, hein, je pourrais toujours couper parce que tellement c'est long. Je réfléchis, non. Si, il y a peut-être une question que j'ai envie de te poser. C'est quoi le prochain projet qui te tient profondément à cœur?
C'est un projet d'habitat collectif.
On revient sur le collectif.
Ah oui. Et oui, madame.
Merci beaucoup, Sylvain. C'était vraiment un plaisir d'être en face de quelqu'un de si présent. Merci.
Écoute, et, plaisir partagé. Salut, Nathalie.
Salut. Quel plaisir d'avoir co-créé ce nouvel épisode de Créez-moi sur parole avec Sylvain. Merci infiniment à lui d'avoir osé prendre la parole et partager sa sensibilité. Merci d'avoir montré comment aller au-delà de la matérialité, comment écouter ce que notre esprit a à nous souffler, d'avoir partagé, sans chercher à convaincre, sa forme de spiritualité. Peut-être ce dont nous avons tant besoin en 2021. Osons aller à la rencontre de nous-mêmes, exigeons l'ambition, créons et prenons notre pied.